on va commencer la première présentation. Mathieu Villeneuve est étudiant à la maîtrise en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Il travaille sur un mémoire intitulé « Territoire fantastique, de la lecture à l'écriture » sous la direction de Samuel Archibald. Il nous propose ce matin une communication dont le titre est « L'ironie postmoderne chez Éric Dupont, l'exemple de la logeuse, personnage décentré, surcentré et intertextuel ».
Bonjour tout le monde. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Salut Marc-André Lafalisse, on s'est rencontré hier, bonjour. Est-ce que c'est un cours en particulier qui est donné avec Renaudet? Ou... Ah, salut René! Ah, ça va bien, oui! Ah, ça fait longtemps! Je n'avais pas vu. Alors, bon, mais tant mieux. Alors, voilà, donc je vais commencer. Alors, je vais regarder l'heure d'abord pour bien savoir.
Je te ferai signe.
Ah, tu vas me faire signe, parfait. C'était bien 20 minutes de temps qu'on avait convenu, c'est ça? D'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre d'Éric Dupont, un livre de 2006 qui est La Logeuse, qui en est à sa quatrième réimpression là, depuis le succès médiatique fulgurant de La fiancée américaine l'année dernière. Alors Éric Dupont, bon, pour ceux qui le connaissent plus ou moins, est un professeur de traduction à l'Université Concordia et il écrit des romans assez particuliers, donc on va pouvoir étudier en prenant l'exemple de La Logeuse tout de suite. Alors, bon, mon introduction est déjà faite, si on veut. Vous en avez parlé, donc 1980, l'histoire de la littérature québécoise, le décentrement, etc. Donc, le passage, si on veut, à une littérature centralisée où, finalement, on met de l'avant la religion, l'histoire, etc. Où, bon, dans les années 60-70, plutôt, on prenait, si on veut, une position contre l'ancienne position canadienne-française du terroir, etc. et tout ça. Alors, à partir de 1980, c'est donc le décentrement, le pluralisme identitaire et linguistique. Donc, c'est ce que vous savez un peu tous déjà. Donc, c'est seulement une brève amorce donc de mon propos. Alors, bon, finalement, c'est le mouvement qui s'accélère, qui était déjà entamé avec la Révolution tranquille, si on veut, l'évacuation du vieux fonds canadien-français. Donc, et on voit de plus en plus, depuis les années 2000, si on veut, un retour du refoulé, donc un passage obligé à, si on veut, une mémoire et à un questionnement identitaire en profondeur. Donc, ça va un peu à l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, pour moi, avec Éric Dupont, c'est quelque chose qui revient. Donc, le retour d'un horizon épique, d'un savoir encyclopédique, un foisonnement structurel et thématique. Donc, on pourrait postuler avec les auteurs de l'histoire de la littérature québécoise que Éric Dupont ferait partie de ce qu'on appelle les romans baroques ou néo-baroques. Alors, plus précisément, mon hypothèse de recherche, dans le cas de ma communication, va être de montrer, que par le biais de l'ironie postmoderne, telle que définie par Linda Hutchins, j'ai pas l'œuvre avec moi, malheureusement, il était plus disponible à la bibliothèque, j'ai pas pu me ressourcer dans mes lectures. Donc, ce roman-là se réengage autrement par rapport aux anciennes questions, aux éternelles questions identitaires du Québec. Donc, c'est d'ailleurs assez d'ambiance en ce moment avec la politique, disons. Alors, voilà. Plus précisément encore, je vais me pencher sur le schéma actentiel et le schéma narratif du roman mis en relation, donc, comme je le disais, avec l'ironie postmoderne. Alors, allons-y comme ça. Alors, brièvement, résumé donc du roman. Je vais lire, c'est seulement quelques lignes, mais c'est vraiment savoureux, puis ça va bien représenter le ton également du roman. Donc, Rosa, jeune Gaspésienne du village côtier de Notre-Dame du Cachalot, a été élevée dans une utopie marxiste organisée par le MERDIC, en majuscule, donc le ministère de l'épanouissement des régions désolées et isolées du Québec. Peu après la mort de sa mère, elle prend la route de Montréal où elle loge chez la maléfique Jeanne Joyal, trouve un travail dans un motel de passe et tombe amoureuse d'un agent de police. La Logeuse est un magnifique roman satirique où les questions d'éoliennes, des feuilleuses cubaines, du Empress of Ireland, de l'accueil que nous réservons à l'autre et de rencontres fortuites qui changent le cours d'une vie. Alors, ce qu'on résume finalement dans la quatrième de couverture, c'est un peu le roman d'apprentissage, le Bildungsroman ou le roman d'initiation, peu importe comment on l'appelle, et qui va chercher nécessairement aux sources profonde et fangeuse du roman du terroir. Alors voilà, c'est un petit peu ça. Et puis il y a quelque chose qu'on mentionne pas, c'est qu'en fait Notre-Dame du Cachalot est le principal exportateur mondial de l'ennui avec un E majuscule. Et voilà, c'est un gaz mortel qui se répand lors de l'élément déclencheur, c'est le vent qui arrête de tomber à ce moment-là. Et c'est donc la quête de notre héroïne Rosa Est, si on veut, donc de l'allemand. Cette petite utopiste marxiste gaspésienne. Donc, c'est là qu'elle s'en va vers Montréal et qu'elle est prise en chemin par les effeuilleuses et par la logeuse. Alors, commencent les péripéties propres au roman d'apprentissage. Alors, voilà, c'est un petit peu ça pour le résumé. Alors, je vais parler brièvement d'ironie postmoderne avant de tomber dans le schéma actentiel et le schéma narratif. Donc, brièvement, l'ironie postmoderne, donc, c'est une stratégie discursive opérant au niveau du langage, stratégie verbale ou de la forme, stratégie musicale, visuelle et textuelle, qui possède un côté évaluatif. Donc, c'est la citation de Linda Hutcheon. Alors, on peut déjà supposer que dans La Logeuse, cette ironie-là va nous permettre, en tant que stratégie discursive, finalement, d'évaluer l'histoire et les thèmes et les structures génériques, donc du roman d'apprentissage ainsi que du roman du terroir, et va également redéfinir ou questionner le personnage qui est problématique, vous le devinerez. Alors voilà, donc chez Dupont, les symboles clés de l'identité québécoise sont revus par cette ironie-là, qui est tributaire pour opérer, je cite encore une fois Linda Hutcheon, c'est une communauté discursive qui est apte à l'interpréter. Alors, par exemple, la célèbre devise « Je me souviens de nos plaques minéralogiques » devient, donc, avec le Grouchistan, en fait, qui est un autre pays, ben, ça devient donc « J'oublie » dans ce pays-là. Alors, donc, c'est vraiment un processus d'urgence, d'évacuation de l'histoire. Voilà, du Grouchistan qui est un pays du Caucase, donc, de Gourou et de Chistan, mais qui est à la fois un jeu de foisonnement interprétatif avec l'intertextualité, donc parce que c'est le Groucho Marx en même temps, qui en tout cas, bon, je me perds un petit peu dans mes trucs, je vais me fier à ce que j'ai écrit, désolé. Alors, le Grouchistan, voilà, point. Alors, à l'inverse de l'histoire avec un grand H et des grands romans historiques, qui sont eux aussi écorchés par l'ironie de Dupont, cette devise prêche le rapprochement des deux ou des 10-15 solitudes. Alors, chez Perdita, donc chez cette caucasienne-là, en effet, je cite le roman, on a expurgé des manuels d'histoire tout récit susceptible de rallumer les vieilles rancœurs et de mettre en péril l'unité nationale. Alors, dans ce cas-là, le lecteur, peu importe son origine ethnique, devient donc, dans cette dialectique de l'ironie, la communauté discursive qui interprète une telle ironie. Et il peut ainsi redéfinir son propre identitaire. Plus largement, c'est dans son ensemble que le roman prône ce rassemblement des cultures. Donc, je dois faire brièvement une explication. Vous connaissez probablement la Maine à Montréal, donc la rue Saint-Laurent, pardon. Alors, c'est là que se déroulent la plupart des initiations de Rosa, finalement, propres au schéma du roman d'apprentissage. Donc, c'est plus particulièrement au Nile, qui est un bar des Feuilleuses. Donc, coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine environ. Et la Maine, historiquement, vous savez peut-être, est le symbole vraiment sempiternel de la division anglophone-francophone, riche, pauvre, bon ouvrier, patron, etc. Donc, c'est vraiment cette division-là qui est investie par le carnavalesque Bactinien dans le roman de La Logeuse. Donc, les personnages donc opposants à Juvent, est-ouest finalement, se retrouvent dans ce bar-là, dans ce climat complètement ironique, qui passe finalement sur une même pied d'égalité tous les personnages, les rendant aussi imbéciles les uns que les autres, si on veut. Alors, ce sera un petit peu ça pour le Nile. Donc, c'est là que se passent les initiations. Voilà, par exemple, on parlait d'ironie, et il y a les stratégies musicales qui sont développées dans le texte, donc qui font preuve d'ironie postmoderne. Alors, dans ce cas-ci, ce serait, par exemple, la liste de lecture du Nile qui est assez intéressante, là, lors de l'arrivée montréalaise de Rosa. Alors, c'est d'abord la chanson du Cosaque. Ensuite, il y a des vieux hits de Nina Hengen, qui sont interprétés toujours par les danseuses slaves, africaines et québécoises, qui sont des anciennes républiques socialistes. Et ensuite, on passe à l'international, justement, et on termine, ce qui est non sans rappeler la pièce « Les belles-sœurs » de Michel Tremblay, avec le Haut-Canada. Alors, voilà, donc, cette ironie-là fait fi des limites culturelles, nationales et temporelles, mélange des habitués, des politiciens d'Ottawa et des universitaires, sans se soucier des notions hiérarchiques figées. Dès lors, l'ironie, par sa poétique de l'indifférenciation, opère une redéfinition du politique, de l'espace social, de la confrontation des opinions, et des intérêts des citoyens. Donc, ça devient en fait le lieu des humaineries les plus démentes où tout le monde semble égal en bêtise. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, voilà. Le lieu est donc le très important dans le roman d'apprentissage. C'est là que se rencontrent et se confrontent toutes les idéologies et tous les personnages, et comme je le disais, qui sont revus par une sorte d'indifférenciation carnavalesque. Alors, voilà. L'ironie fonctionne avec une dialectique particulière, même si elle semble tout détruire. Elle nécessite l'apport d'un lecteur pour créer du sens, car, comme nous le mentionnons, elle exploite les ambiguïtés de la langue et rend sa liberté d'interprétation au lecteur. Alors, sur le plan de la politique diégétique, par exemple, la politique de Dupont est vraiment postmoderne, parce qu'à l'inverse de l'ironie moderne, qui est la plupart du temps antiphrastique, on peut penser par exemple à Candide de Voltaire, elle ne laisse aucune piste évidente. Le lecteur, si on reprend l'exemple du Nile carnavalesque, ne peut prendre la situation pris de la lettre, que tous les clients sont tous des imbéciles, ni comprendre le contraire, qu'ils sont sophistiqués. Donc, pour mieux comprendre, il faut retourner à ce qu'énonce Linda Hutcheon. La fonction subversive de l'ironie est souvent liée au mode d'autocritique, d'autoconnaissance, d'autoréflexion, susceptible de mettre au défi la hiérarchie des lieux mêmes du discours, une hiérarchie basée sur les relations sociales de la domination. Alors, je prenais l'exemple du Nile, mais cette ironie-là, cette fonction subversive-là, se retrouve partout. Donc, dans la politique, dans le roman, on retrouve des pseudo-grévistes de l'UQAM, donc d'où je reviens maintenant. Il y a des, il y a toutes sortes de gens. Il y a l'Office québécois de la langue française où travaille la logeuse, finalement, également, qui est passée vraiment criblée de balles langagères, si on veut. Alors, c'est un petit peu ça. Donc, sous le couvert du ridicule, de l'humour et du burlesque, l'ironie postmoderne peut donc dire autre chose, aller plus loin que la critique directe, en court-circuitant les lieux du discours, en remodelant le monde dans la fiction. Alors voilà, ainsi, par cette capacité à miner et à renverser, elle est susceptible à la rigueur de transformer la politique réelle. Bref, elle est démocratisante. Alors voilà, j'arrive au rapport au genre. Alors, je parlais tout à l'heure des influences du roman d'apprentissage et du roman initiatique, finalement, et ainsi que du roman du terroir. Alors, donc, pour reprendre le schéma narratif principal, archétypique, de, justement, du roman d'apprentissage, ce serait donc, je cite cet ouvrage-là, qui est le roman d'apprentissage au 19e siècle. Donc, ce genre de roman se fonde sur l'histoire d'un individu, donc c'est notre héros, dans le cas-ci, c'est l'héroïne, c'est Rosa Ost, un jeune, donc dans le roman parisien du 19e, c'est un jeune provincial issu des classes moyennes. C'est un peu la même chose, finalement, dans le cas, c'est une fille de région qui est issue d'une utopie marxiste. Donc, c'est un peu particulier. Donc, ce personnage-là va être façonné, modelé, formé par la vie, va tirer un enseignement de ses différentes expériences. Cette formation, cette initiation au monde s'opère par étapes et suppose une progression par degrés successifs. Donc, on voit, bon, les lignes narratives récurrentes, c'est un jeune héros, un parcours social où l'individu se mesure à la société et à des initiateurs qui sont amis, amants ou encore complètement des opposants, qui le conseille et le guide. Alors à ce moment-là, il y a vraiment, dans notre schéma potentiel, deux colonnes qui se forment. Bon, les adjuvants qui sont du côté de Rosa, il y a les effeuilleuses, il y a son policier à casine dont elle tombe amoureuse. Donc si on veut, ce serait le rôle dans l'éducation sentimentale de Fauvel, par exemple, ce serait le rôle de la maîtresse. Bon, ça devient un amant, c'est renverser le rôle sexuel aussi, comme beaucoup de choses dans le roman. Et donc... c'est un petit peu ça, les thèmes, c'est l'argent, l'éducation sentimentale, la lutte de pouvoir, la représentation du politique, etc. Et souvent, au 19e siècle, ce qu'on voit, en passant en fait de Stendhal à Maupassant, en passant par Flaubert et Balzac, c'est que plus on avançait dans le siècle, plus on arrivait dans un spleen, comme à la fin de notre siècle à nous, le 20e, donc on montait de plus en plus vers une désillusion généralisée. Alors, à chaque auteur, à chaque étape, si on veut, de l'histoire du roman d'apprentissage, on allait de plus en plus dans le cynisme et dans cet enfer urbain, si on veut. Alors, ce serait un petit peu ça. Voilà, donc, et puis par rapport au roman de la Terre, donc on se rappelle que souvent, par exemple, comme dans La Terre paternelle, c'est un jeune homme qui quitte la terre de ses ancêtres pour aller travailler en ville, le lieu des péchés, etc., etc., et qui revient. Et bon, dans La Terre paternelle, par exemple, c'est l'anglais, carrément, avec un grand A, qui est assis sur son balcon, ce personnage désincarné, qui est plus finalement un symbole de l'autre qui est arrivé là. Alors, voilà, et dans le roman de la Terre, c'est souvent la religion, la langue, la famille, la perte de la mémoire, bon, qui sont les thèmes principaux. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que le but est de plaire, d'émouvoir et d'instruire. Donc, dans le roman d'apprentissage, dans le roman de la Terre. Et dans le cas de la logeuse, bon, qui s'inspire de ces deux sources-là, c'est la même chose. Mais c'est plus difficile de voir parce que c'est comme je le disais tout à l'heure avec l'ironie postmoderne, le côté instructif, si on veut, du roman, et laisser à l'interprétation du lecteur. Mais je vais y arriver tout à l'heure, il me reste encore un peu de temps. Alors, voilà. Et on se pose la question par rapport aux genres qui ont influencé la logeuse. Eh bien, il y a une notion paratextuelle très intéressante sous le titre qui est en fait roman tragique. Et là, on se pose la question, pourquoi le roman tragique? Qu'est-ce qui se passe dans ce roman-là qui est si exceptionnel? Et en fait, on va arriver dès les débuts du roman, en fait, la page 2 ou 3, je me rappelle bien, une prophétie qui arrive en fait d'un coquillage du fleuve Saint-Laurent, donc c'est assez particulier, et qui va en fait dire à Rosa d'aller vers Montréal, et elle l'investit d'une mission divine, donc dès qu'elle a 7 ou 8 ans, et c'est donc, c'est un peu cette idée-là de marxisme mystique, Donc, parce que Rosa a lu Marx dès qu'elle était tout jeune, elle a appris à lire avec Marx et sa religion est un peu fondée sur ça, si on veut. Alors voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée de la fatalité qui revient tout au long du roman. Cette idée-là de d'éternel retour, si on veut, de cyclicité sans fin du monde. Et à la toute fin, on se rend compte, on arrive aussi à la fin de ma communication, c'est vraiment un dénouement extraordinaire. Et là, quand on parlait d'un retour à une forme plus traditionnelle du roman dans La Logeuse, on y arrive. En fait, il y a un basculement fantastique et on se rend compte que La Logeuse, qui s'appelle Jeanne Joyal, est en fait Jeanne d'Arc, qui n'est jamais morte sur le bûcher, qui a fait tuer une vierge à sa place et qui a pu s'exiler en France en 1671. Elle était déjà âgée de 270 ans environ. Alors voilà, Jeanne d'Arc a continué et elle s'est toujours dissimulée et, comme une femme, mais en fait c'est un homme. Et ce qu'on réalise, dont on se rend compte, pardon, c'est que c'est assez particulier, là, la logeuse, donc Jeanne Joyal, est le père de Rosa. Et on arrive dans le syndrome freudien d'Édipe, en fait, le syndrome d'Édipe. Et il y a une mention claire à Freud. Et Rosa veut même se creuser les yeux, là, se les arracher, comme dans la scène, dans la catharsis, finalement, d'Édipe, c'était ça. Alors voilà, c'est un petit peu la fin. Et ce qui arrive avec ça, c'est qu'on tombe dans l'allégorie des personnages. Alors, c'est l'allégorie du Québec postmoderne, si on veut. Parce que Rosa est née d'un père mort depuis longtemps, qui n'a même plus d'ombre, qui a vendu son âme au diable pour survivre, donc le vieux fond français, si on veut, et d'une mère marxiste de région. Donc, ce serait, si on veut, l'allégorie du couple. Ce couple-là, pardon, serait l'allégorie du nationalisme de gauche, qui serait mort, en fait, à la naissance même de Rosa, le 20 mai 1980, et la date fatidique du référendum. Alors voilà, on voit tout le foisonnement interprétatif d'Éric Dupont. On voit vraiment à quel point on retourne à un savoir encyclopédique, à un questionnement identitaire de fond, ainsi qu'à une forme qui est, si on veut, un retour du traditionnel, mais en même temps dans un mélange de formes proprement postmoderne. Alors, c'est un petit peu ça. Et ça se termine. Jeanne doit transférer sa malédiction à sa descendance, en l'occurrence Rosa. Rosa continue le travail. Elle reprend la maison, la pension, si on veut, à Montréal, sur le 5071 rue Saint-Cyboire environ. Je ne me rappelle plus de l'adresse exacte. Et elle reprend ça et elle est condamnée finalement à 500-600 ans de vie comme ça sur Terre. Et là, on se demande, est-ce qu'il va faire la même chose? Est-ce que c'est un retour totalement du même? Est-ce que c'est la cyclicité sans fin et complètement fatale de la tragédie? En fait, la réponse de Rosa est assez particulière. Donc, face à cette idée-là de Jeanne qui veut défendre le français, le vieux fond canadien, français, etc., Rosa lui dit, avec son accent gaspésien qui fait retour, alors excusez mon langage, là, c'est la citation du livre, « Gaulliste de chanteur cheap! » Toi puis tes romans historiquement débiles, ton obsession avec l'histoire, puis que tu te pollues l'existence de quatre filles qui essayent juste de se faire un avenir dans le monde, etc., etc. Puis là, c'est vraiment la longue harangue, vraiment cette sortie d'elle-même, cette crise totale envers sa mère-père, finalement, et elle la décapite carrément, et donc elle va sauver Jeanne d'Arc de sa malédiction. Et c'est vraiment intéressant, parce que moi j'aime croiser les jambes, là, c'est la fin, donc on fait ça plus comme s'il y avait 10 ans, les éboys. Alors voilà. donc finalement, Rosa reçoit la maison de la logeuse, et c'est l'équivalent de la fin de la terre paternelle, si on veut, par exemple. Donc elle reprend une possession qui est de ses ancêtres, de son ancêtre, si on veut, dans ce cas-ci. Mais c'est pas un retour à la terre, c'est pas un retour à la région, c'est plutôt en ville. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs écarts génériques qui sont à noter dans la logeuse. Donc, c'est pas de la région vers la ville, vers le péché, vers le retour, vers la morale, mais il y a finalement Rosa qui reste à Montréal, qui reste dans le péché, qui s'y positionne dans sa nouvelle malédiction. Alors, bon, en conclusion, en ouverture, il me reste 2 minutes, ça tombe bien, c'est ce que j'avais calculé pour ça. Alors, je vais lire, là, je suis désolé. Alors, la logeuse, en reprenant la structure de base du roman d'apprentissage, la dépasse et la renouvelle. Le roman de la Terre, avatar du roman d'apprentissage, s'y voit renversé par l'ironie postmoderne, tout comme les anciennes idéologies mortes avec le référendum de 1980 et la naissance de Rosa. Donc le marxisme-léninisme, le régionalisme, l'histoire, et le nationalisme. Rosa, prise dans l'étau d'une fatalité hautement tragique, son engendrement sans âme et sa condamnation à errer dans le monde jusqu'à ce qu'un descendant la décime à son tour, ni son héritage historique et, on le suppose, préfère se faire martyr des temps postmodernes, chantre des abusés d'un nouveau monde à venir, pluraliste, ouvert et carnavalesque. L'ironie, en tant que tonalité principale du roman, comme destructrice des normes et des idées reçues, a donc pour but, de pair avec l'éternité tragique et comique qui la côtoie, de plaire, d'émouvoir et d'instruire. Sa leçon, qui nécessite l'apport d'une communauté discursive apte à l'interpréter, est donc la mort d'une ancienne époque, d'une naissance d'un temps nouveau, qui nécessite... C'est ça exactement. Donc, ce serait en fait ça pour moi, l'interprétation d'Éric Dupont de la fin. Donc, c'est cette Rosa-là qui est pluraliste, qui parle anglais, qui passe en accent gaspésien, qui reste à Montréal et qui se fait avec les effeuilleuses, avec un nouveau monde souterrain et postmoderne. Donc, une nouvelle vie, une nouvelle époque, un nouveau monde. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.
On va passer à la période de questions, commentaires, impressions. Alors, je vous invite à discuter. Oui.
Oui.
Je voulais savoir son autre roman qui est La mariée américaine.
La fiancée américaine, oui.
Est-ce que tu l'as lu?
Ah non, pas encore. Je l'ai chez moi, là, mais c'est gros, hein. Puis, mais c'est vrai que ça se lit en 3-4 jours. Là, ça,
je voulais savoir s'il y avait le même style.
J'imagine que oui, c'est ce qu'on m'a dit, que c'était bon, son idée de l'encyclopédisme, son obsession pour l'Allemagne aussi, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que Rosa Ost est en fait, si on veut, un avatar de Rosa Luxembourg, donc de cette martyre politique-là, qui est morte sous les balles, finalement, dans un attentat dans les années 20, je crois, ou 1919, en tout cas, c'est un peu vague, là, je me suis pas rafraîchi la mémoire pour ma présentation, mais ces thèmes qui reviennent aussi, là, le vieux fond canadien-français, la reprise un peu postmoderne, carnavalesque, des anciens thèmes, des anciennes structures. Donc, pour moi, oui, c'est quelque chose qui est commun. Et d'ailleurs, c'est un roman que j'avais étudié avec André Mercier dans un roman québécois 6 l'année dernière. Et justement, on l'avait étudié parce que c'est un classique en cours. Et Éric Dupont va faire l'histoire de la littérature québécoise. À mon avis, j'ai dit des grandes choses, là, je suis désolé. Le temps, c'est ça, j'ai pas assez bu de café. Ah ouais, merci beaucoup pour ta question. Oui.
Oui, bien, merci. Vous parliez de... À un moment, Michel Tremblay, puis des belles-sœurs. Puis moi, je trouve qu'il y a vraiment un phénomène intertextuel. On parle aussi d'intertextualité dans le cadre de cette communication. Puis le phénomène intertextuel avec Tremblay, il est partout. Enfin, c'est la ville de Montréal, c'est la Maine. C'est aussi bon, ce personnage de la logeuse qui rappelle un peu la subversion des genres sexués chez Tremblay.
Oui.
Puis moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux Chroniques du Mont-Royal, à la série des Cahiers, et même à tout le cycle théâtral des belles-sœurs qui rappelle un peu tout ce dont vous avez parlé. Puis surtout, vous parlez de subversion du roman d'apprentissage et du roman du terroir. Là où il y a aussi peut-être une subversion, c'est par le fait que le personnage n'est pas un homme, mais une femme. Dans le roman du terroir, ce sont généralement des hommes. Vous avez cité La Terre paternelle, c'est exactement ça. Puis dans le roman d'apprentissage, on le voit avec le roman d'apprentissage français du 19e, mais aussi le roman d'apprentissage canadien, français, puis ensuite québécois au 20e siècle. C'est toujours un homme. Puis, Éric Dupont... C'est un homme présente une femme, alors que d'habitude, le roman d'apprentissage avec une femme, ce sont des romans écrits par des femmes. On pense à Maryse et à Myriam Première de Martine Noël. Donc, est-ce que la subversion de ces genres littéraires ne passe pas aussi par une sorte de subversion du genre sexué et dans La Logeuse, mais aussi dans la continuité d'Éric Dupont dans, par exemple, La fiancée américaine?
Oui, exactement. En fait, c'est très bien ce que vous dites, parce que ça va chercher dans ce que je voulais dire, mais que j'ai pas eu le temps de dire. Donc oui, dans la pluralité, dans le décentrement post-référendaire, bon, au sens historique, évidemment, les sexes, et c'est très présent, il y a un renversement sexuel là. Et puis, par rapport à la norme générique du roman d'apprentissage, bon, je parlais de Flaubert, de Balzac et tout ça, donc c'est toujours un roman avec un héros mâle, finalement, qui va se frayer un chemin dans la multiplicité parisienne et qui va rencontrer des maîtresses qui vont l'éduquer. Donc, le roman d'apprentissage se fait beaucoup par là, et de là, le titre « L'éducation sentimentale », bon, le roman de Flaubert. Et par rapport au roman d'Atterre, évidemment, c'est complètement inversé. Vous avez raison, absolument, et j'en aurais parlé aussi. Et puis, l'intertextualité par rapport à Tremblay, c'est très bien vu. Moi, je l'ai vu surtout par rapport aux belles-sœurs, et puis par rapport à la main, cet imaginaire-là aussi urbain, le joual qui est repris également. C'est sûr que Tremblay, bon, c'est difficile de pas l'avoir lu et de pas se positionner par rapport à lui, en quelque sorte. Et si on veut, c'est un peu le problème de l'intertextualité, c'est que quand on commence à vouloir en voir, on en voit partout. Et c'est le foisonnement interprétatif dont je parle. parlait avec Éric Dupont, c'est vraiment assez fulgurant. La Logeuse, ça fait référence à au moins 3 œuvres du 19e siècle, souvent par rapport au fantastique. Il y a une nouvelle de Roald Dahl qui est excellente, justement, où La Logeuse est une sorte de démon, donc probablement une des inspirations d'Éric Dupont. Et puis, par rapport au roman du 19e, quand je lisais finalement la structure du roman d'apprentissage du 19e, mais je faisais toujours des liens avec La Logeuse parce que c'est là, il y a une structure qui est reprise avec l'ironie, mais qui est là quand même. Éric Dupont est un maître en ça, là, un maître de vraiment, c'est très bien fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait autre chose? Merci beaucoup.
Je me demandais, parce que ce que vous avez montré, c'est beaucoup le jeu, le renversement qu'on prend dans la structure, qu'on fait quelque chose de nouveau, tout ça. Puis, je me demandais au niveau du personnage de Rosa, est-ce qu'elle a une nouvelle posture ou elle a simplement pris la place du jeune homme qui est initié, mais je me demandais si dans sa propre attitude, dans sa description, s'il y avait aussi quelque chose de subversif, ironique.
Oui, c'est une très bonne question. En fait, on parle de jeu et de renversement, surtout à la fin. Bon, en fait, ce que j'ai pas eu le temps de dire quand je faisais ma lecture hier, bon, il y avait plein de choses qui surgissaient encore à ma troisième lecture. Puis, ce qui est intéressant, c'est le côté épistolaire dont j'ai pas parlé, en fait. C'est que Rosa va toujours demander conseil à son maire et à sa grand-mère Zénoïde qui parle seulement par... expression populaire, par devise, etc. Je me rappelle plus le mot. En tout cas, ce qui rappelle d'ailleurs Sancho Panza dans Don Quichotte. Mais en tout cas, c'est une parenthèse dans une parenthèse, je m'excuse. Où je voulais en venir, c'est qu'en fait, Nicéphore Duressac, en fait, qui est le maire du village de Notre-Dame du Cachalot, lui fait des conseils. Donc, qui est dans le roman d'apprentissage, qui est une source de connaissances. Et il lui dit à la fin, donc en citant Marx encore une fois, qui est dans l'intertexte toujours présent. Alors, donc c'est ce passage très célèbre où il dit Marx, Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent, pour ainsi dire, deux fois. Il a oublié d'ajouter la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Donc, prends bien garde, et là c'est Nicéphore qui parle, prends bien garde de ne pas devenir une farce, Rosa. Alors, il y a cet avertissement final-là qui est très intéressant, parce que, donc, en fait, puisque Rosa est un double, un avatar, une répétition... De Jeanne d'Arc, finalement, elle risquerait fort de devenir une farce. Et dans le roman, elle l'est la plupart du temps, parce qu'elle est vue avec ironie dans le cadre du roman d'apprentissage. Et donc, c'est un petit peu ça. Et en fait, on voit dans le champ lexical aussi, la toute fin, on passe de la tonalité tragique, qui était très présente, bon, avec le basculement fantastique, etc., à une tonalité, si on veut, bon, qui serait plus joyeuse, là, excusez-moi l'expression. On voit bon que c'est la neige blanche et immaculée de janvier, qu'il y a en fait des nouveaux rideaux sur les fenêtres de la pension. Et puis ils se mettent à jouer au Scrabble, et parce que le Scrabble revient souvent, le Scrabble. Et puis à la fin, il y a un mot qu'on triple avec le mot fin, donc c'est les trois lettres de fin qui font, on voit d'ici. Donc il y a cette idée-là de jeu. Donc je reviens au début de ta question, et ce serait un peu la. Ce qui arrive souvent dans l'ironie postmoderne, c'est la prophétie de Cortázar qu'on arriverait à devenir un homo ludens, finalement, qui serait notre fin en tant qu'homme, de devenir un homme-jeu, finalement. Donc, avec la logique, c'est intéressant. Puis oui, c'est ça, il y a un renversement. Donc, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose de positif. Elle va essayer de faire son mieux avec... bon, parce qu'elle accueille tout un monde souterrain qui n'était pas permis pour sa prédécesseur, finalement. Donc, cette ouverture-là, cette pluralité-là, qu'elle fait entrer chez elle, dans la maison. Donc, elle fait entrer l'anglais, elle fait entrer la noire, etc. Bon, et toutes les majuscules sortaient-là, qui étaient finalement l'autre dans le roman du terroir. Donc, tout ça, cet autre-là, cette altérité-là, revient dans la maison et fait partie finalement de chez soi. Donc, de cette allégorie de la maison nationale, si on veut. Donc, ce serait ça. Désolé, ça a été long.
Ouais, tu as ramené la question du côté du personnage, du genre convaincu un peu plus.
Oui.
Je poserai la question crûment, mais je vais m'expliquer. Est-ce qu'on y croit au personnage? On a souvent l'impression que, quand tu nous dis, c'est plein d'ironie, et surtout qu'on est dans le spectre de l'ironie, on ne lit pas les choses pour elles-mêmes. Tu le dis très bien, on reporte le problème du côté du lecteur qui va se faire une tête. Qui doit essayer de voir est-ce que le personnage doit prendre au premier degré, est-ce que je prends ses propos au premier degré, est-ce que je peux le comprendre pour ce qu'il est ou ce qu'il représente. Et tu montrais comment il y a eu toute la mise à mort des idéologies. Il y a un temps où le personnage était défini entre autres par son positionnement idéologique, par ses valeurs.
Après ça, on s'en va, dans le cas de la logeuse, plus vers une construction intertextuelle. Le personnage n'existe pas pour lui-même, mais pour toutes les trames qu'on superpose et qui finissent par créer une espèce de boule un peu composite de toutes sortes de références. Et à la limite, où le personnage est plutôt un amas de bribes de mythes plutôt que d'individualité, de personnalité, d'intériorité qui lui serait propre. Donc, est-ce que le personnage principal de la logeuse est lisible pour lui-même ou juste pour ce à quoi il renvoie finalement?
Mm-hmm. En fait, pour moi, il faut le voir d'au moins deux manières. Ben, en fait, trois. Bon, il y a l'idée de... en fait, plusieurs. Là, c'est tellement foisonnant. Bon, mais c'est d'abord l'héroïne d'une structure romanesque, finalement. Donc, c'est elle qui fait avancer l'intrigue. Donc, elle a finalement son rôle de cette manière-là. Ensuite, c'est donc un personnage intertextuel, comme vous le mentionnez, René. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Et d'ailleurs, il y a aussi du métatexte très intéressant par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est ici, je l'ai trouvé. Alors, un jour, quelque part, Rosa ne savait plus exactement où, quelqu'un avait écrit « Lire, c'est partir un peu ». Elle était aussi certaine d'avoir entendu quelqu'un dire « Partir, c'est mourir un peu ». Bon, on voit le syllogisme. Elle en arrive à la conclusion que, finalement, lire, c'est un peu mourir. Et donc, nul ne pouvait nier que la vie de notre petite Rosa n'avait été jusqu'ici qu'une liste interminable de lectures et de départs. Donc, sa mère avait débuté le jour où sa mère lui avait appris à lire. Les gens heureux ne lisent pas d'histoire, etc. Mais c'est vraiment deux pages vraiment très intéressantes sur la lecture. Et justement, ce dévoilement des rouages romanesques intertextuels qui sont à l'œuvre par le métatexte. Alors, pour moi, ce serait une autre fonction du personnage, finalement, d'illustrer une fonction de la lecture qui est de faire mourir le lecteur, en quelque sorte. Et donc, avec la logeuse, on meurt beaucoup, mais on revit dans l'interminable retour du même, en quelque sorte. Mais je me suis un peu perdu dans ma réponse, je suis désolé, René.
C'est vraiment ma question. Est-ce qu'on y croit?
Est-ce qu'on y croit, finalement? Moi, j'y crois comme un plaisir. Donc, en quelque sorte, j'y crois, mais en ne croyant pas. C'est vraiment un paradoxe intéressant.
Moi, je suis content que tu poses cette question-là. J'avais la même réflexion, mais moi, c'est justement encore par rapport à Virginie. Je me demandais, en fait, moi, j'ai pas lu le roman. Deux remarques. La mise en garde du maire, c'est une citation de Marx, c'est une 18 brumaire de Napoléon, où il parle de Napoléon.
Oui, exactement.
Il rejoint la farce. Mm-hmm. Où, en fait, la deuxième fois, son coup d'État qui rejoue la République romaine, cette fois-ci en farce. Donc, encore là, Marx est présent, et puis, bon, la figure d'autorité du maire qui dirige son village. Il y a très certainement, j'ai pas lu le livre, mais juste à t'entendre parler, il y a très certainement une intertextualité aussi de Victor Hugo, je veux dire, cette espèce de burlesque bon, dans les noms des personnages, mais aussi dans l'espèce d'impossibilité de cet univers-là qui mélange à la fois histoire nationale, littérature, bon, faudrait peut-être aller voir de ce côté-là. Mais bon, justement, la manière dont je comprends ton exposé, il y a une certaine forme, c'est pas seulement la subversion de tous les genres et de toutes les idéologies, c'est à la limite leur destruction. Je ne reprends pas le roman du terroir pour montrer le retourner contre lui-même. Finalement, il détruit ce roman du terroir-là. Il n'y a plus aucun des codes habituellement qui encadrent ce genre-là. Qui n'est pas mise à plat, ou en tout cas ridiculisée, ou en tout cas, bref, ironisée, si on veut. Et je me demandais, le personnage étant une structure textuelle très importante pour ces gens-là, est-ce que le personnage n'est pas lui-même subverti, ou en tout cas déconstruit par Éric Dupont? Et de cette manière-là, est-ce qu'il lui reste encore un espace pour agir dans le roman, finalement? Est-ce que c'est pas l'auteur qui devient la seule personne capable de poser un acte dans son propre livre, tous les personnages étant à sa merci, et puis...
Oui, ok, c'est une très bonne question. En fait, je vois deux volets. Par rapport à l'intertextualité avec Victor Lévi-Beaulieu, je pourrais pas dire, je suis pas un spécialiste de Beaulieu, mais il y a l'idée de la tribu qui revient. C'est cette nouvelle tribu-là, si on veut, qui est citadine, qui est pluraliste, etc., dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, par rapport au deuxième volet de ta question, l'idée de subversion, destruction du roman du terroir, et donc, par conséquent, du personnage. Je crois que c'est vraiment très valable comme opinion et également très présent dans le texte, donc montré clairement. Par exemple, les effeuilleuses meurent une à une en deux pages, c'est assez incroyable. C'est comme une tonalité vraiment, c'est vraiment bizarre. Je ne m'en rappelle plus la page, je ne l'ai pas notée, hein, je ne l'ai pas retrouvée en faisant ma lecture hier. Mais il y en a une qui meurt dans une usine en fait de conserve en Chine, puisque c'était des Chinoises. Et elles retournaient les deux, puis elles se font découper en morceaux, puis elles se font canner, puis elles se font envoyer Notre-Dame du Cachalot. puis les autres meurent, je sais plus de quelle autre manière, là, mais c'est assez clair, je veux dire, l'idée de d'illusion romanesque est complètement détruite. Là. Le pack de lecture n'existe pas dans La Logeuse. Là. C'est en fait toujours de montrer avec le métatexte qu'on réfléchit au texte. Bon, donc, c'est très présent dans notre époque. Mais malgré tout, je pense que le personnage a plusieurs fonctions. Malheureusement, j'ai pas pu me plonger dans Vincent Jouve et dans tous les autres. Ils étaient tous pris à l'UQAM. Puis je voulais les louer justement pour vous parler clairement avec les mots que vous utilisez dans votre classe et tout ça. Mais malheureusement, j'ai pas pu le faire, là, donc j'y vais avec mes propres mots. Mais ils ont tous des fonctions, comme je le disais, par rapport à l'intrigue, même si elle est très biaisée avec le gars des vues, il y a quand même une intrigue, à mon avis. Bon, il y a cette idée-là de symbole également, et elle est, bon, l'allégorie de la nation québécoise, puisqu'elle est la fille Rosa de mon père bizarre, c'est une mère encore plus étrange. Ouais, c'est ça un petit peu là.
C'est un peu triste.
C'est un peu triste.
Non, mais je sais pas, non, mais de détruire comme ça, dans le fond, la littérature est uniquement possible par la destruction de ce qui s'est fait avant. Que la littérature fonctionne, on ne peut écrire qu'en passant le rouleau sur tout ce qui a été fait, en le brisant finalement.
Oui, ok, on arrive à une vraie discussion, là. Ouais, c'est bien, droit de réplique. C'est bien, miroir. Ben oui, en fait, t'as raison. Mais moi, ce que je pense en lisant Éric Dupont, c'est que c'est pas une destruction au sens du nouveau roman. C'est pas du Rob Grier, pas du tout. C'est pas du Michel Butard. Non. C'est quelque chose qui est quand même lisible au premier degré. C'est là l'idée de l'ironie ou de l'allégorie, si on veut. C'est que, bon, il y a premier degré, deuxième degré à la fois pour le sens ironique et, si on veut, le sens véritable. Donc, j'ai essayé de décortiquer à la fin avec cette idée-là de renouveau et d'espoir en un monde nouveau, malgré notre fatalité, finalement, de reproduire toujours un peu la même chose. Alors, je pense que c'est quand même vraiment assez positif au final, puis cette destruction-là amène quelque chose qui se reconstruit malgré tout par la destruction. Et si on devait faire une phrase punch pour dire ça, donc le roman d'apprentissage devient un roman de désapprentissage, des illusions, un peu comme, bon, avec le 19e siècle et ça, avec Maupassant et les autres. Puis, qui plus est, ça devient une éducation de la destruction, en quelque sorte. Et cette destruction-là permet de reconstruire, en tout cas. Donc, il y a cette idée-là de cyclicité là, qui revient. Et donc, on serait, à partir de 1980, en fait, c'est l'âge du verso. Là, qui est, on se repense à l'âge du poisson, c'est le New Age. Là, ça va durer 2460 ans. Mais je ne veux pas faire de New Age ici ce matin, dans le tour pour ça. Mais bon, donc, anthropologiquement, ce serait prouvable là, qu'on a vraiment passé un nouvel an en 1980. Mais bon, je ne veux pas aller là-dedans. Là. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent répondre directement à cette question-là de destruction? Où est-ce qu'on a perdu notre temps?
On n'a pas perdu notre temps du tout, mais on va passer à la pause.
Oui,
alors, okay. Merci. Mathieu, c'était très intéressant. Merci à vous.